La poésie débouche.
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 Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie.
Un vendredi sur deux, de 14h à 15h, la poésie débouche toujours les oreilles.
Un vendredi sur deux, de 14 à 15h, la poésie débouche vos petites oreilles.
Un vendredi sur deux, de 14h à 15h, la poésie débouche.
Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie.
La poésie débouche,
la poésie débouche.
Mais pourquoi la poésie débouche?
Bah, parce que la poésie débouche les oreilles
et que les bouches sont poésie.
Ah.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la poésie débouche. L'émission où s'aventure la littérature. Avril est arrivé et ce vendredi, nous résiderons ici pour une heure sur les ondes de Radio Canu, la plus rebelle des radios. À mes côtés, l'écrivaine Samira Negrouche et au programme, Laurence Vielle, Mouloud Akouche et Charles Penquin. Résider donc, occuper un endroit, s'installer, exister quelque part, siéger dans une ville, un lieu, une pièce. La résidence est-elle une permanence, une habitude, ou bien trouver place à un moment donné, ponctuellement? Investir, rester un peu, prendre le temps, être ici et maintenant. Résider, épouser une rue, un appartement, un champ, un meuble, un vélo, une voiture, un lit. Et puis résider, est-ce le choisir? La possibilité de choisir. La vérité de la difficile, sinon impossible mobilité. Et puis aussi, pour certains, le mouvement sans cesse, changer de résidence. La résidence du corps, la résidence du cœur, la résidence de l'esprit, sans limite. Évoluer, résider des traversées. Hier, nous résidions. Présentement, nous résidons. Demain, nous résiderons. Alors c'est parti. Résidons avec une mise en voix plurielle d'un texte de Laurence Vielle, projet collectif monté à Bruxelles par Maria Dogae, découvert à l'hiver dernier. J'ai aimé le mélange des langues, le train, l'impression du voyage résidence. Le morceau se nomme Traversée. Écoutez.
Le train Nar Onslant a amené Italiens, Polonais, Français, Grecs, Marocains, Espagnols, et ceux de l'Est, et ceux du Sud, et ceux de l'Ouest, et ceux du Nord, à charrier force vive, petit pays Kleinland, depuis toujours pétri de temps de traversée à train.
Jeptalien, Bouloni, Francis, Uneni, Mrarba, Sbagnuri.
Those from the East and those from the South. Those from the west and those from the north.
Carreteo con fuerza. Pequeño país. Pequeñito país.
Klein, o klein landje. Gekneed sinds jaar en dag. Door degene die haar kruisen.
Ach, trenule, trenule. Tren al plecării copiilor, în care cântă ciorile.
پاییز همان فصلی است که در آن برگ‌های درختان می‌زردند و زیر پای رهگذران بی تفاوت خشخش می‌کنند.
From Brussels you leave for Liège, and then Luc, and then Liège. From Brussels you leave for Mons, and then Bergen, and then Mons. From Brussels you leave for Liège, and then Luc, and then Liège. From Brussels you leave for Mons, and then Bergen, and then Mons. When the arms of my love are there to welcome me, the return is good. And I think of all those released onto the platform here without arms to gather them.
Hay trenes, trenecitos. El trenecito eléctrico de mi padre, de mi hermano, atraviesa mi infancia. Montañas de cartón rígido, personajes minúsculos. Reinventábamos el mundo, éramos esas mujercitas, esos hombrecitos. Hechicemos el mundo de nuevo.
au rail de nos vies. Le train file, défile, enfile les paysages de nos visages qui se reflètent dans la vitre, se fondent à chaque prairie, chaque ciel qui effeuille toutes les formes des nuages, s'y perdent nos visages.
اگرچه چشمان تو جز ترپه زیبایی نیست، دل بکن آینه انقدر تماشایی نیست. حاصل خیز در آینه ها شدن آیا دو برابر شدن قصه تنهایی نیست. بی سبب طالب دریا مکشان قایق را، قایقت را بشکن روح تو دریایی نیست.
El tren junta, traza líneas. El clic clic haciendo punto. El run run de los portátiles.
Getirdi beraberinde güç, ülke minik, ülke küçük. Onlar yoğurdu bu yurdu, dergitleri yoğundu.
Umugisha nagize nuko aho nagiraga hose nasangaga amaboko y'urukundo anyakira.
Open jezelf, mijn vriend de trein. Voor zij zonder papieren, zonder oever.
Se deschidem prietene, se deschidem trenul. Și fără hârtii, și fără râuri.
Democratic train, clear windows. Offer us a ticket every first Sunday of the month to explore every backwood through which the rails still pass.
En zodat ons landje een laboratorium van curiositeiten kan zijn.
Train, 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 transporte-moi, travaille-moi et branle-moi, entraîne-moi.
Transporteer mij, schud mij door elkaar. Neem mij mee op de cadans van de trein, gloednieuw is de nieuwe stof van onze slapende lichamen.
Et tandis que j'écris, un homme face à moi en boule sur banquette, voyageur sans ticket, dans son silence implore l'argent pour continuer vivant le grand voyage.
Karşıdan karşıya geçmek.
The crossing.
Şok.
Travesía.
De doorkomst.
Obur.
Traversata.
Kwambuka.
Traversé.
Ce morceau donne vraiment envie de résider dans un train et de voyager au long cours. Alors pour poursuivre, un peu de musique et le morceau très connu de Maxime Le Forestier, Être né quelque part.
Sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part.
Est-ce que les gens naissent
trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Maintenant, chers auditeurs, allons à la rencontre de Mouloud Akouche. Au détour d'un de ses passages à Lyon, je l'ai rencontré. L'écrivain Mouloud Akouche nous parle de sa conception de résider, comme à un instantané. Il lit aussi un extrait de Sur le bord, ouvrage publié en 2010 aux éditions Inuit et qui parle de Montreuil. Je vous laisse en compagnie de Mouloud Akouche.
Bonjour Mouloud.
Bonjour.
Alors Mouloud Akouche, est-ce que vous voulez nous présenter votre parcours et votre travail en quelques mots?
Quelques mots?
Quelques mots.
Eh bien, UX, je suis auteur de romans noirs. Bon, ma première nouvelle a été publiée quand j'avais 30 ans, a été publiée au Québec. J'ai mon premier manuscrit, je l'ai envoyé, j'avais 17 ans, chez Gallimard, il a été refusé. Et voilà, en fait, et depuis toujours, j'écris, voilà, là, je continue d'écrire. Je vis au bord de l'Ariège. Mais c'est vrai que par exemple, j'ai jamais autant écrit sur Montreuil depuis que je vis au bord de l'Ariège. En fait, j'y vais souvent à Montreuil. C'est vrai que quand je vais à Paris, je dis je vais à Paname-Montreuil. Et voilà, cette ville, elle est un peu importante quoi, pour moi en tout cas.
Qu'est-ce qu'elle représente pour vous?
Bon, elle représente l'enfance, elle représente tout un tas de choses. Et puis là, elle évolue, elle bouge. Puis c'est pas mal un peu de prendre du recul sur une ville comme ça, de prendre un peu de s'éloigner un peu, pour la voir différemment. Je la vois de dos maintenant.
De dos? Ça veut
le
dire
dos,
quoi
de dos d'une ville.
C'est quoi le dos d'une ville?
Bah, elle s'éloigne, et puis de temps en temps, quand je remonte à Montreuil justement, je cours un peu, et puis je me mets à son niveau. Et je la vois plus de dos. Je reste un peu, donc je la revois de face.
C'est joli. Mouloud, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que c'est pour vous, résider?
Résider, c'est vivre avant d'être un résidu, quoi. Résider, c'est là où t'es, quoi. Quand il y a un gosse là, vous en voulant, qui voulait connaître mes origines, et quand j'ai répondu fils de pauvre, ça lui a pas plu. J'aurais presque eu envie de rajouter, moi j'ai deux patries, l'amour et l'amitié. En fait, résider, c'est là où tu respires, quoi.
C'est le fait de s'installer?
Non, résider, pour moi, c'est là où vraiment tu respires. C'est-à-dire, t'es là, il y a des résidences éphémères, t'es sur un comptoir, c'est une résidence éphémère. Mais imagine, tu rentres dans un bar, t'as une attaque cardiaque, tu crèves. Mais c'est ta dernière résidence.
Donc c'est chaque endroit, là ouais. Par exemple, en ce moment, on réside ici, dans cette salle.
L'instant est la première des résidences, on réside l'instant, quoi.
C'est beau, on réside ouais. L'instant, l'instantané.
Ouais.
D'accord. Alors justement, vous allez nous lire un extrait de quel ouvrage?
En fait, c'est de Sur le bord, c'est un docu-fiction, ils avaient intitulé ça Sur la banlieue, c'est avec un photographe qui s'appelle Gilles Delbos, et on a bossé là-dessus. Et en fait, moi j'ai écrit une espèce de petit roman, et finalement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il était très autobiographique. Alors, j'ai essayé vraiment de qu'il soit pas... Et c'est d'ailleurs un de mes fils qui m'a dit, c'est celui où tu parles le plus de toi. Alors j'étais vraiment un peu scotché. Et à l'intérieur de ce roman, donc il y a ces photos, il y a deux personnages, un personnage qui est parti il y a 30 ans de cet endroit-là. Et une ex-copine à lui dit qu'il est le père d'une fille qu'il ne connaissait pas. Et donc, il vient voir sa fille, mais dans une ville où il habitait, lui, il y a très très longtemps. Et c'est lui, à son âge maintenant, et le texte est entrecoupé des propos d'un jeune gosse qui vivait là-haut, mais en fait, il y a un jeune gosse là qui part un peu en vrille, et donc cet homme de 55 ans et ce gosse qui se retrouve dans la même ville. Et entre-temps, il y a un sociologue, il y a un urbaniste, il y a un poète qui ont mis des textes à l'intérieur. C'est pour ça que ça s'appelle docu-fiction.
Ok, on vous écoute.
Hello. Lila et la maternité. La place de la Croix de Chabot avait bien sûr changé en 33 ans, surtout sa population. Les relents d'une atmosphère populaire flottaient encore comme dans un éco-musée. Indiens aux dents pourries et la laine chargée de bière, les orphelins de l'ère industrielle traînaient sans un rond. Certains bouffaient de rancœur et parfois porteurs d'une intelligence mortifère. Confinés dans des réserves mobiles, RSA, CMU, PMU ou méthadone. De nouveaux arrivants, surnommés Bobo, avaient élu domicile dans le quartier. Parfois, tous ces Montreuillois bavardaient autour d'un verre, puis, au son d'une cloche derrière le comptoir, chacun ramassait ses petites affaires avant de s'éloigner dans la nuit. Les uns regagnaient loft ou maison, tandis que les autres, des marches chaloupées par l'alcool, remontaient à pied ou avec le dernier bus vers le haut Montreuil, l'arrière-salle de la ville. Deux mondes pour un seul territoire. À quelques minutes d'intervalle, je vis une ado noire avec une poussette et une autre maghrébine tenant un enfant à la main. Ces bébés, sûrement des enfants de Bobo, fréquenteront les mêmes écoles primaires que leurs baby-sitters, pas les mêmes collèges. Ce quartier, centre d'une ville aux 112 langues et très peuplée en intermittents du spectacle, était souvent cité comme exemple de mixité sociale réussie. Tout abondait dans ce sens, sauf que cette belle vitrine était née d'une faillite. Le temps avait englouti les fantômes des anciens ateliers d'artisans et les usines, navires de métal et de plomb échoués, pavillons des Trente Glorieuses en berne. Pas la vision idyllique décrite dans les hebdos. Cette mixité puait le préfabriqué, un artifice de publicitaire pour refourguer de grands espaces désaffectés, recycler les murs de la révolution industrielle. Je ne croyais pas du tout à cette comédie citadine qui, masquait de bons sentiments, cachait un monopole immobilier avec des gagnants et des perdants. L'idéal s'arrête à la porte du notaire. Être né et avoir vécu dans cette ville, ajouté à ma défiance habituelle, influençait mes nouvelles impressions sur mon trône. Rien de nouveau sous le soleil, sauf les vêtements et la technologie. J'étais déjà agacé, mon retour commençait très mal. Pourquoi lui avoir promis ?
Merci.
Merci.
Alors, j'ai une question, c'est la question motif de l'émission.
Ouais.
Si vous étiez une poésie, ouais, quelle serait-elle ?
Si j'étais une poésie, je serais... Oh, quoi que finalement, le Dormeur du Val, c'est un truc qui me revient souvent. C'est une espèce de polar, un peu, le Dormeur du Val.
Une espèce de polar ?
Avec du suspense, hein. En tout cas, il y a du suspense dans le Dormeur du Val. Puisqu'on apprend tout à la fin.
Ok. Ok, merci Mouloud, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Alors, je vais me risquer à vous lire, chers auditeurs, le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fier, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Maintenant, Immigrant Song de Led Zeppelin. Alors j'imagine que vous avez remué vos cheveux, chers auditeurs. Alors à présent, une petite transition. Je vais vous lire un bref extrait de Duna Lou et de son roman L'Oragé, paru au Mercure de France en 2015. Quand j'ai préparé l'émission sur Résidé, j'ai pensé à cet extrait. Tout est là, beau, absurde et brut. Tu es devant ce monde qui n'est rien en soi. Et c'est toi qui donnes le sens, qui fait venir à toi les formes. Sinon, rien. Tu n'es qu'une pantoufle et tu es chaussé par tes peurs, agi par tes imaginations, tes fantasmes. C'est toi qui dois chausser le monde, pas l'inverse. Sans ta liberté, ton regard, il n'y a que matière magnifique et porteuse, explosive, incohérence pure. Toi seul as la responsabilité de ta cohérence. Alors poursuivons avec le poète Charles Penquin et son texte « La preuve ». Un texte drôle et métaphysique à la fois au rythme pointu. Car résider, c'est aussi exister. Un peu, beaucoup, si peu ou pas du tout. C'est parti.
Dire que j'existe, j'ai beau me le faire savoir, j'ai beau insister, j'ai beau dire et insister et vraiment perdurer dans l'affirmation que j'ai une existence, que j'ai quelque chose qui relèverait de mon existence, de quelque chose qui est vraiment apparent, visuel, réel, complètement là, complètement posé. J'ai beau insister sur ce fait, j'ai beau me démener, j'ai beau essayer de vraiment prouver par A plus B que j'existe, j'ai beau essayer vraiment de me le foutre dans le crâne, une bonne fois pour toutes, j'essaye de me le mettre à l'intérieur, pour savoir vraiment, savoir enfin me le dire, vraiment du noir sur blanc que j'existe. J'ai beau essayer, mais vraiment par tous les moyens, tous les jours, tous les moyens sont bons pour essayer de se prouver qu'il y a une existence. J'ai beau essayer de me le prouver par A plus B, par n'importe quelle lettre de l'alphabet. Je pourrais utiliser n'importe quelle lettre, n'importe quel mot qui pourrait sortir, qui pourrait jaillir et faire jaillir enfin la vérité que j'existe, car il y a une vérité, et la vérité, c'est qu'il y a une existence. J'ai beau pouvoir m'essayer de m'extirper, de faire sortir quelque chose de moi qui prouverait à la face du monde qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est posé là, j'ai beau dire ça, j'ai beau essayer par tous les moyens, et tous les moyens sont bons pour se le prouver, se le dire tous les jours, se dire à chaque instant, à chaque moment, chaque petit instant, chaque petite minute, chaque petite seconde qui passe, se voir, voir même son ombre, sa petite ombre qui se déplace, essayer de la voir et comprendre que c'est l'ombre de soi-même et que soi-même il est là et que c'est peut-être pas pour longtemps qu'il est là. Donc, se dire qu'il y a une existence quelque part qui bouge à tel endroit, mais comment ça bouge, comment ça existe, avec quoi ça existe, par quels moyens ça peut exister. J'ai beau essayer de trouver tous les moyens, et tous les moyens sont bons, mais un seul moyen qui peut prouver ça entièrement, c'est-à-dire avec des mots, c'est-à-dire avec force de vérité, c'est-à-dire quelque chose, une sorte de parole vraie, une vraie parole, enfin quelque chose qui va sortir et qui va nous le foutre en plein dedans pour nous prouver enfin qu'il y a vraiment quelque chose qui s'agite à l'intérieur et à l'extérieur de nous.
Avant de retrouver Samira Negrouche qui est avec moi en studio, on va écouter le morceau du compositeur autrichien Waldeck, Chat La la la.
Chalalala. parole quando vieni, vieni. Il tempo passerà, o passerà. Questa, questa volta non ti dico niente.
Bonjour Samira Negrouche.
Bonjour.
Comment vas-tu? Je te tutoie.
Bah écoute, ça va. Tutoie-moi.
On se tutoie en off, donc je vais te tutoyer à la radio.
On va faire ça.
Alors, aujourd'hui, tu m'accompagnes pour l'émission autour du thème, donc résider. Je commence par te présenter et ensuite on discute, ça te va?
Je t'écoute.
C'est parti. Alors, tu es née à Alger et tu y vis aujourd'hui.
Je viens même de passer rue d'Alger ou rue d'Algérie.
Ouais, rue d'Algérie. C'est ça, tout à fait, rue d'Algérie. Tu es poète et traductrice. Et tu es également médecin et tu te consacres en parallèle depuis l'âge de 20 ans à l'écriture, en parallèle de ton métier de médecin. Tes textes sont publiés dans plusieurs pays, traduits dans une vingtaine de langues et publiés en volume, en revue et en collectif. Tu as notamment été publié par Poésie, Action Poétique, Bombe Magazine, Berlin Quarterly, Poetry Worlds et tes textes figurent dans plusieurs anthologies. Tu es trilingue de naissance, arabe, français, anglais. Et donc, tu te passionnes très tôt pour les langues.
On va peut-être préciser tout de
suite.
Vas-y, c'est parti. L'anglais est venu plus tard. Les trois langues que je mets à peu près à égalité, c'est le berbère ou le tamazirt, le français et l'arabe.
Ok, donc l'anglais, non, t'es pas...
L'anglais, non, pour l'Algérie, c'est pas tout à fait ça. Ce serait le Nigeria, pour qui l'anglais est une langue maternelle, presque.
Mais ça aurait pu. J'aurais pu
avoir une maman américaine, d'ailleurs,
c'est
pourquoi
ça,
pas.
C'est pour ça. D'ailleurs, je ne parle pas de tes parents ici dans cette présentation. Tu dis que tu questionnes les frontières physiques, linguistiques et aussi artistiques. Et du coup, tu collabores depuis de nombreuses années avec des artistes visuels et des musiciens tels que Katharina Fotinaki, Lionel Martin ou Alice Hillem, avec lequel tu as créé Bâton Totem en 2007. On peut citer ta dernière publication, Six arbres de fortune autour de ma baignoire, aux éditions Mazette, parue en mars dernier. Ok ? Alors Samira, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée à l'écriture, comment tu es entrée en poésie et quel est ton rapport avec elle ?
Sincèrement, je ne sais pas s'il y a un point de départ à partir duquel raconter à quel moment on entre en poésie. Je crois que c'est des choses qui se font progressivement. Et plus le temps passe et plus je me dis la question c'est pas comment on est arrivé ni pourquoi, mais pourquoi on n'arrête pas. Je crois que ça serait la question fondamentale. C'est nous les poètes, on a un virus. Parce que je lisais la phrase de je ne sais plus quelqu'un, Jim Jarmusch, me semble-t-il, celui qui vient de faire Patterson, qui disait « J'adore les poètes parce que je n'ai rencontré aucun d'eux qui fait ça pour du fric. Et c'est vrai que les poètes cherchent quelque chose, et ils ont ce virus, et s'ils continuent, certains diraient que c'est de la folie, mais ils continuent. Et pour moi, c'est ça la question fondamentale. C'est, pour ça, c'est pourquoi je continue, alors que finalement, nous n'avons pas de maison commune qu'on pourrait signifier, même s'il y a des maisons de la poésie. On n'est pas comme les musiciens qui ont des conservatoires, les dramaturges qui ont des théâtres, des points de repère. Nous, on est là, on est dans une maison flottante, et on existe, on coexiste, on a des liens, des généalogies avec nos aînés, avec nos compagnons de route, et puis on ne sait pas pourquoi on continue. Je pense que c'est ça la question fondamentale.
C'est ça pour toi, résider en poésie, c'est flotter ?
Ah, ça, c'est encore une autre histoire. Il faudrait juxtaposer, me semble-t-il, son histoire personnelle et familiale pour donner un sens au mot résider. Mais si je devais être sincère avec toi, je te dirais que pour moi, résider, c'est déjà avoir une cafetière italienne dans un lieu où j'arrive.
Alors, explique-moi le coup de la cafetière italienne.
Ah, le coup de la cafetière italienne, c'est voilà, un endroit où je dois habiter ne peut pas exister s'il n'y a pas de cafetière italienne, parce que c'est le seul café que je bois.
Bon, bah, tu peux venir chez moi, c'est bon, j'en ai une.
Tu m'invites, c'est ça l'histoire.
Alors, donc l'idée, justement, est être poétesse pour toi aussi, résider
poète,
en poésie.
Poète,
ok, c'est comme tu veux. Être poète, ça signifie quoi? Ça représente quoi pour toi? Tous les jours aussi, dans toutes tes résidences peut-être, mobile, dans tout ce que
Alors Bernard Noël, à qui j'ai posé la même question il y a quelques années, m'a dit « être poète, ça n'existe pas ». Je ne dirais pas ça tout à fait. Certains poètes disent qu'être poète, c'est au moment où tu écris, et en dehors de l'écriture, tu n'es plus poète. Mais je pense que, ne serait-ce que pour moi qui a arrêté, qui a décidé d'arrêter au moins pour quelques années mon ex-métier de médecin, pour moi être poète c'est une philosophie de vie d'une certaine manière, même si c'est grossier de le dire comme ça, c'est aller vers son chemin personnel, c'est essayer de creuser, c'est se livrer à une sorte d'incertitude, de flottement. Je disais ça tout à l'heure, de flottement, c'est vrai, dans ce sens-là, c'est un flottement, c'est accepter une fragilité, accepter un flottement. Pour moi, c'est ça, être poète.
Un flottement, une incertitude qui est due à l'écriture même de la poésie ?
Non, qui est due au fait que chercher sa voix poétique, c'est ne jamais s'installer en elle, c'est la re-questionner à nouveau à chaque fois. Et donc, ne pas tomber dans le confort, c'est ça que j'appelle ne pas tomber dans le confort. C'est pas sans cesse répéter les mêmes choses. C'est questionner sa langue, et au-delà de sa langue, on n'est pas dans la technicité ou de l'esthétique de la langue, c'est questionner le monde autour de soi. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'être un poète qui se réveille en résidence à Vénissieux et qui voit qu'il y a des gamins qui ont été gazés à Damas ou dans une ville non loin de Damas? Pour moi, c'est ça, être poète, c'est être à l'écoute du monde et sans pour autant être dans l'illustration. On n'est pas là pour lever le poing et résister au sens caricatural du terme, mais on est là pour être à l'écoute, pour d'une certaine manière arrêter l'agitation. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, l'agitation. Je parle de la mienne et je parle de l'agitation inutile et futile. Pour moi, mon travail, c'est de me mettre en retrait, de me mettre en silence et d'écouter ce qui se passe autour. Et parce que j'écoute sincèrement ce qui se passe autour, parce que je me laisse toucher, émouvoir, questionner par ce qui se passe autour, je fais d'une certaine manière mon travail de poète.
Alors justement, là tu as parlé rapidement de ta résidence, la résidence que tu occupes en ce moment même à Vénissieux. Et je pense que ça va justement expliquer un petit peu ce que tu dis de ta manière d'habiter le monde en tant que poète. Alors tu es en résidence donc à Vénissieux avec l'association Espace Pandora qu'on a déjà cité dans l'émission, qui est une association qui œuvre en faveur de l'action poétique sur le territoire de Vénissieux et aussi plus majoritairement dans l'agglomération lyonnaise. Pour expliquer rapidement aux auditeurs, c'est vrai que la résidence de Vénissieux, la résidence d'écriture de l'espace Pandora, elle ne se conçoit, ce n'est pas une résidence d'écriture à proprement parler où il est alloué un temps de 2-3 mois à l'écrivain qui va avoir le temps d'écrire, etc. Là, on est dans une résidence terrain, une résidence d'exploration, une résidence mission, où tu es amené en fait à aller tout le temps, partout,
sur le territoire de Vénissieux, à la rencontre des acteurs, à la rencontre des gens, à la rencontre des habitants, à la rencontre du tout à chacun. Et se font les intermédiaires, ce sont les associations culturelles, sociales, sportives aussi, enfin plein d'associations. Alors qu'est-ce que c'est pour toi justement être sur une, faire partie d'une résidence comme ça, où tu es en fait comme tu es vraiment là pour être avec l'autre, et tu es là pour t'offrir à l'autre, pour offrir à l'autre. C'est pas alors qu'est-ce que ça dit pour toi? Comment tu la vis, cette aventure?
Alors déjà, c'est une aventure qui questionne. Ça questionne parce que ça ne va pas de soi. Le travail du poète, c'est comme je te disais, entrer en silence, observer, se mettre à distance et écrire. À partir du moment où tu interagis, tu n'es plus dans l'observation, tu es un élément à l'intérieur de ce paysage que normalement tu regardes de l'extérieur. Et donc ça demande de toi beaucoup de choses. Ça demande d'entrer dans un échange, et cet échange, il te tourne aux boules parce que tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Et une résidence comme l'Espace Pandora, on ne peut la faire qu'avec des gens à qui on fait confiance. Je suis venue à Vénissieux parce que je connais le travail de Thierry Renard, que je connais l'Espace Pandora et que je fais confiance au regard qu'il porte sur le monde, au regard qu'il porte sur ce quartier, sur cette ville. Et pour moi, c'est très courageux de continuer à vouloir faire ça quand nous sommes dans un monde non seulement consumériste, mais dans un monde de la culpabilité et du chantage, dans lequel on pense à la place des autres, dans lequel on pense qu'il y a un certain type de littérature ou de culture qu'on offre à un certain type de public, alors que là, le message qu'on essaye de partager, c'est que quelle que soit l'exigence de l'art, quelle que soit l'exigence du regard, toi en face, tu y as droit. C'est ça l'histoire. C'est d'aller voir des gens et de leur dire « je ne suis pas venu faire des jeux avec vous, je suis venu vous regarder à égalité, sur un pied d'égalité. J'ai des choses à vous dire, vous avez des choses à me dire. » Et c'est ça qui se passe dans cette résidence, c'est que on respecte les gens qui sont en face, on sent qu'ils nous respectent et on sent qu'il y a un terrain possible pour des échanges réels à la mesure de chacun, mais on pousse au maximum les possibles. Et ça, c'est intéressant. Alors forcément, il y a parfois des frustrations du fait que c'est quand on voyage qu'on a le plus d'énergie, le plus envie d'écrire, parce que le cerveau est en ébullition et du coup, on est dans des moments où on voit plein de personnes, ça demande du temps, de l'énergie, de passer d'un groupe à l'autre, d'un quartier à l'autre, d'un lieu à l'autre. On en reviendra parce que ça m'intéresse sur la question du résidé et du point de repère dans le résidé. Comment créer ces points de repère dans le résidé? Et là-dessus, donc, ça tourne boule tout. Et puis, il faut être capable de rester dans ce flux parce que ce flux, il est incessant, il est intéressant, il est porteur de beaucoup de choses, il est porteur de fertilité, notamment humaine, mais aussi esthétique, et donc se dire je vais laisser tout ça se travailler, continuer à travailler à l'intérieur de moi, et à distance je verrai ce qui s'est réellement passé, parce que dedans on vit les choses et ensuite on prend des distances et on essaye de voir ce qui s'est réellement passé.
Est-ce que Samira, tu as le temps d'écrire justement pendant cette résidence là quand tu as les temps où tu es logée à Vénissieux, hein, par l'association? Quand tu es chez toi ou le soir, dans un temps de silence, dans un temps de calme, est-ce que tu as le temps d'écrire, de noter des impressions, de te rappeler des mots, peut-être des échanges Est-ce que tu as ce temps-là?
Alors, je sais qu'il y a des auteurs qui écrivent dans les cafés. Je sais qu'il y a des auteurs qui écrivent dans n'importe quelles conditions. Je fais partie de ceux qui écrivent dans des bulles de silence très hermétiques. Donc, ce que je te disais, c'est que je vis cette résidence dans l'esprit de l'échange. Je ne me mets pas non plus la pression d'écrire quelque chose, parce que si je me la mettais, ce serait complètement impossible. Alors forcément, je prends des notes, je lis, je cherche, mais je ne pense pas que ce soit une résidence pendant laquelle on peut réellement écrire, du moins pas pour moi, parce que chacun a son rythme. Déjà, je pense qu'il faut quand même rappeler que l'écriture prend du temps, qu'elle a besoin d'un temps de souffle, et ce temps de souffle, on ne peut jamais le prévoir d'avance, en fait. On peut juste essayer de créer les conditions pour que le silence existe, et parfois, ça marche et d'autres fois ça marche pas et il faut juste voilà aller avec le flux et essayer de se faire des traditions quoi.
C'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'écriture parce que justement tu dis donc que ça prend du temps que là donc pendant la résidence de Vinicieux c'est pas ce temps-là n'est pas forcément présent. Alors donc quand tu dis que ça prend du temps etc et que tu as justement, tu n'es pas quelqu'un qui écrit dans les cafés, qui écrit dans la rue, qui écrit sur un bout de... Tu es quelqu'un qui a besoin d'une bulle de silence, tu dis tout, voilà, quelque chose, une forme d'enfermement hein, avec toi, avec toi-même et ta voix intérieure, on va dire. Alors réécrire pour toi, si ça prend du temps, comment tu expliquerais toi ton travail d'écriture? Tu réécris, tu... Alors forcément, peut-être que c'est des questions, mais pour les auditeurs, je pense que c'est intéressant. Tu notes, t'écris, tu réécris, tu reprends. Est-ce que ça prend... Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont pris 3 ans? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont pris 2 mois? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont pris 10 ans? Comment
hier,
ça marche?
Hier, j'ai donné un atelier d'écriture dans lequel j'ai utilisé des extraits des élégies de Duino, de Rilke. Et quand j'ai expliqué aux gens que ça lui avait pris 12 ans, ils m'ont regardé avec des yeux ronds. Bah, la poésie, ça prend du temps. Le livre que je publie là, il y a des textes qui datent de 2010. Et en réalité, moi, ce que j'aime faire, c'est que quand j'ai fini un texte, je signe toujours achevé d'écrire. Parce que le texte que j'ai fini d'écrire aujourd'hui, c'est un texte sur lequel je travaille depuis peut-être plusieurs années. Mmh. J'ai des manuscrits qui dorment, que j'ai pas envie encore de publier, qui ont 10 ans. Parce que ça prend du temps, parce que ça chemine avec nous-mêmes dans la vie, et que parfois on sait pas pourquoi on écrit ces choses-là, et que on sent au fond de nous qu'on n'a pas encore tout à fait envie de les partager. Et donc moi, quand on me sollicite pour un livre collectif ou une revue, c'est quasiment impossible que je donne un texte si on me sollicite pour dans 3 ou 4 mois. Ou même pas 6 mois. Il m'arrive de bosser un an sur ça, par exemple, le texte que j'ai donné à la revue Poésie, qui s'intitule « Qui parle », dans lequel je parle entre autres de mon rapport à la langue française. C'est plus d'un an d'écriture pour 3 pages. Et c'est mon cheminement par rapport à cette langue et par rapport aux questions qu'on me pose en public depuis de nombreuses années que je viens en France. Voilà, c'est pour te dire qu'il y a l'acte d'écrire lui-même, il y a tout le temps de la recherche quand on écrit sur un thème spécifique, il y a le chemin que ça fait en soi, il y a le temps d'écriture, il y a le temps de la réécriture.
À quel moment tu te dis « achevé d'écrire » ?
Au moment où je sens que je peux lâcher le truc, que je n'ai plus rien à corriger. Ça, je le sais, c'est instinctif. Enfin, c'est mon rapport à moi avec mon texte. C'est que je le vois, je dis, c'est bon, je ne vais plus rien rajouter.
Alors, avant de t'écouter lire justement et de te laisser avec les auditeurs un petit moment, je voulais te demander, tu l'as dit, tu as signifié que tu avais envie d'y revenir, de parler de résider et de parler des points de repère. Alors, toi, tu vis... à Alger. C'est un point de repère, Alger.
Pour moi, résider dans un lieu, quand j'arrive quelque part, parce que je bouge beaucoup, et ça implique une autre forme de fragilité avec soi, c'est que tu n'as pas de point de repère. C'est qu'il te faut toujours du temps avant de t'habituer au lieu dans lequel tu es, de trouver l'arrêt de bus, l'arrêt de tram, le boulanger. Tout ça, c'est des choses banales. Quand on habite dans un quartier qu'on vient de déménager, qu'on a tout le temps de s'habituer à ce quartier, encore ça va. Mais quand on y est une semaine là, 15 jours là, 3 semaines là, 3 mois là, moi, dès que j'arrive quelque part, c'est très rare que je ne fasse pas un tour général du quartier avant de dormir. Je ne peux pas dormir dans un endroit si je ne sais pas où est la mer, où est la montagne. Je vous raconte, une fois, je suis arrivée chez des amis sur l'île de Groix. Ils n'étaient pas là, ils m'avaient laissé les clés chez les voisins. Je débarque du bateau, c'était la nuit, le bus me dépose à côté de chez eux, je rentre. Il était, je crois, 21h quand je suis arrivée, il faisait nuit. Et j'ai posé mes affaires, je suis sortie. Il fallait absolument que je voie où était la mer, il fallait absolument que je voie où j'étais. Sinon, je ne pouvais pas dormir. Je suis rentrée à la maison à 2h du matin. Voilà, c'est pour te dire, mon rapport à résider, c'est ça. C'est trouver un point de repère où je suis, cartographier l'espace, et puis trouver petit à petit des points de repère
c'est ta géographie mentale.
De visage humain aussi, parce que le lendemain, il fallait que je trouve le pain, le marché, tout ça.
Mais c'est intéressant parce que bon, tu pourrais dormir et puis le lendemain faire ça.
Et non, ça je
mais
peux pas.
Mais t'as besoin quand même de créer. Mais ça, mais c'est certain que résider, c'est peut-être aussi, oui, un moment créé. Alors, tout à l'heure, Mouloud accouche, moi, ça m'a parlé parce qu'il dit résider, ça peut être résider dans l'instantané. On peut, je peux, voilà, si je réside dans ce bistrot là et que je meurs dans ce bistrot, bah, c'est mon dernier point de résidence. Mm-hmm. Mais en attendant, sans doute que sa géographie mentale et sa géographie spatiale du bistrot, elle était OK. Du coup,
ah oui,
il était...
probablement. Peut-être que lui n'a pas le même rapport au déplacement. Mais par contre, une fois que j'ai quitté un lieu, il est complètement cartographié dans mon esprit. C'est-à-dire que j'y suis pas retournée depuis à l'île de Groix, mais je suis complètement connectée à cette île. Non, mes copains, quand ils m'appellent, ils me disent « Ah, on est en train de boire un café, machin », tout de suite, je suis connectée. De la même manière que je suis connectée au boulevard de la Croix-Rousse, où régulièrement, je dors quand je viens à Lyon. Donc voilà, je cartographie. Et je suis liée à des individus, et quand il se passe quelque chose quelque part, pour moi, c'est pas anonyme. Je suis tout de suite, j'envoie un fil.
Et bah là, c'est super, tu nous as envoyé les fils à Radio
voilà,
Canu.
Voilà, maintenant,
moi, ça
c'est Radio Canu, c'est fini, c'est cartographié.
C'est ça. Alors, on t'écoute maintenant lire. Tu nous en parles, si tu veux, avant ou après, pour nous présenter.
Alors, je vais faire ça avant.
Je te laisse bien parler... En face du micro, je te laisse vraiment avec nos auditeurs, là, moi je n'existe plus.
Mais si, tu es là, tu es juste en face. Alors, Carole, je vais te lire quelques extraits de mon dialogue avec la poète américaine Anna Moskovakis. Nous faisons ça depuis 2 ans, à peu près. En réalité, c'est une histoire qui dure depuis plusieurs années, depuis 2010. Mais nous avons décidé donc d'écrire des dialogues avec Anna. Et je vais lire 3 des fragments que moi j'ai écrits. Et ensuite, je vais te lire quelques bouts du dernier livre, 6 arbres de fortune autour de ma baignoire. Anna, la chaise est renversée. C'est à partir de la fin, n'importe quelle fin, qu'il faudrait réajuster l'oubli. Le paradis, Anna, a parfois un goût de soleil moisi. Quand je pense au soleil, je veux penser à Sénaka, Amroucha, Amrani. Mais quand je pense au soleil, je veux penser au soleil de la Californie. Celui que je n'ai jamais vu, cette terre-mère qui t'irrigue. Le désir prend place dans ce qui adviendra peut-être, peu importe si ça advient. À la fin, le paradis rétablit la chaise. Je ne dis pas que la chaise redevient droite, je ne dis pas qu'elle se dresse, mais quelque chose, n'est-ce pas, doit être rétabli, et je crois que c'est l'idée même du paradis qui m'inquiète. Dans le Coran, il ruisselle sous les pieds des mamans. Dans le Coran, certains retiennent les vierges offertes aux sacrifiés. Il faut renverser le sacrifice, Anna, sans doute rétablir les vierges et les mères. Pour le marabout de Dakar, il ne sert à rien d'aller à la Mecque, car dit-il, la Mecque, c'est le flanc de ta mère. Au nord, le flanc de ta mère, dit-il. Il ne dit pas étrangle-toi avec ton cordon ombilical, mais ta mère, comme une Mecque, est une terre promise. Il ne faut y voyager qu'une fois. La terre de ma mère est un cordon joyeux. C'est une chanson dans le bain, Thawardut. تواردت تواردت كم تواردت الزهر حيث شفا حيث ملاح ورت نتجارة تنطر الزينيس ذك فرونيس ماذا العطار ذمانيس وين يسرح انمي يعيا هذه الطاس ذي لهنا تواردت لغوز. Ma mère se rappelle le bain, tous les enfants sont beaux et le paradis Anna est une mer dans laquelle on ne voyage qu'une fois, un refrain qui reste comme un battement lointain. Nous ne sommes pas parfaits Anna, nous ne sommes pas imparfaits non plus. Soleil, soleil, soleil. My sun is somewhere where it's blue. J'ai déjà vu une pièce bleue inondée de sable. Sun potential blue. Une dune inonde la pièce bleue. Soleil qui déborde tache de blue. Something in something became sun. Despite tout ce qui n'est pas bleu semble nuit. In the blueness of la peau qui s'éveille dans le sun troublant, veille à l'opening des rivages. It falls, ça tombe. Le lit est glacé.
quand vendredi noir, les arbres s'alignent, blanques comme des croix dressées, blanques, le Coran est vert, blanques, mais les arbres de Black Friday, blanques, la mort n'a pas de couleur, blanques, je crois la mort, blanques, quand le roi s'encercle dans l'horizontale, blanques, that's the time, chassé devient, blanques, plus rien ne peut arrêter, blanques, la chasse du roi. Incline-moi dans un lac, probably something, probablement quelque chose misses the point dans l'interstice, black, noir, le monde. Il y a sur nos têtes une ombre verticale qui vibre. Une ombre qui claque sur nos têtes, un sifflement clandestin, dans la plaine aride sur nos têtes encombrées. Et pendant que ça siffle, que rien ne prévoit, que ça siffle, que nos crânes bourdonnent, c'est un toit en béton qui accueille nos humeurs, nos flancs téméraires sur la plateforme de fortune, la constellation larguée dans le brouillard des sens. Tu n'as pas abandonné l'épave poussiéreuse. Des ombres verticales courent à lisière de dunes, tes yeux emmaillotés derrière la glace concave, protection anti-UV non garantie, des touches noires à lisière de dune, un solfège sans bruit. Tu n'as pas abandonné l'épave poussiéreuse. Une ombre verticale plonge plantée dans la plaine aride que tu irrigues de promesses, l'organe métallique qui vibre à lisière de poumons sur la plateforme de béton où les musiques s'entrechoquent, protection non garantie pour un totem de fortune. Il me semble difficile qu'un mot-clé puisse ouvrir quoi que ce soit qui envahit la peine. Les mots n'ouvrent rien véritablement. La fonction paralyse le mot. J'assume, la statistique paralyse tout logiciel par saturation.
Merci Samira.
Merci.
Alors, avant de se quitter, et puis d'écouter aussi un peu de musique avec toi, je voulais te poser la question du motif de la poésie des bouches. Alors, si, qui est, si tu étais un poème, quel serait-il ?
Sincèrement, je ne sais pas répondre à ce genre de questions parce que choisir un poème que j'aimerais, ça voudrait dire que je me l'approprie et je trouve pas ça très génial de s'approprier un truc. Et puis voilà, je suis irriguée par plein de choses et ça change. Et voilà, il y a plein de poètes que j'adore, d'aujourd'hui et d'hier, mais franchement, je vois pas, ça ne me saute pas aux yeux.
Ok, bon, nous resterons dans cette...
Ou peut-être, ce que je peux faire, c'est de te dire l'exergue que j'ai choisi pour ce poème, ce long poème, « Six arbres de fortune autour de ma baignoire ».
Allez, vas-y.
Voilà, ce qui me tient à cœur en ce moment, tout de suite, maintenant que je te parle, c'est un vers de Tristan Tzara dans « L'homme approximatif », où il dit « Homme un peu animal, un peu fleur, un peu métal, un peu homme ». Voilà.
J'adore. Merci Samira. C'est très bien aussi une citation, une phrase, un vers, quelque chose.
Voilà, c'est mon sentiment du moment.
Alors, avant d'écouter le morceau que tu as choisi, juste pour rappeler aux auditeurs que s'ils veulent te rencontrer et s'ils veulent t'apprécier sur scène et à Vénissieux, la clôture de la résidence de Samira Negrouche, c'est le 18 mai prochain au cinéma Gérard Philippe de Vénissieux. Alors, pour la musique donc, Samira, quand je t'ai demandé, tu as choisi le morceau Bamboula, extrait de l'album Jazz Before Jazz de Mario Sanchez et Lionel Martin. Rapidement, pourquoi ce morceau, Samira ?
Alors, parce que déjà, j'adore Lionel Martin, que j'ai rencontré à Lyon grâce au festival de l'Espace Pandora de l'automne. Rappelle-moi,
Parole ambulante.
C'était une longue histoire depuis 2003. On a parfois travaillé ensemble. Et quand il m'a envoyé ce CD à Alger, voilà, j'ai adoré ce CD. Et j'ai trouvé ça génial qu'ils aillent trouver ce musicien compositeur en Amérique latine et qu'ils aient trouvé en lui une forme de racine du jazz, quoi. J'ai beaucoup aimé ça et puis ça tombait au moment où j'allais bientôt partir au Mexique, donc tout ça se rejoignait et voilà, j'ai beaucoup aimé ce CD.
Eh ben c'est parti, on écoute, let's go. ¶¶ Alors je remercie évidemment Samira Negrouche. Merci Samira.
Merci à toi pour l'invitation.
À très
bientôt.
Et aux
techniciens bien sûr, qui sont très sympas, je le précise.
Oui, Martha et Bubu à la régie aujourd'hui, c'était du grand plaisir de les avoir avec moi. Je suis contente, avec nous, c'était trop bien. On formait un joli quatuor. Alors la prochaine, c'est dans deux semaines, c'est le 21 avril, en compagnie de l'écrivain Yann Monk pour une émission consacrée à l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Alors vous le savez, la poésie des bouches se réécoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu, rubrique bloc des émissions, la poésie des bouches. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Y a-t-il plus bel échantillon ? Pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela ? Une voix, et ce son-là suffit pour nous. La poésie.